Bifurcation.
Bifurqué. Non, bifurcation.
Bifurcation.
Bifurcation, épisode 11, novembre. Eh, hey, mais qu'est-ce que tu fous? Hello.
Hello.
On espère que vous êtes en forme.
On a entamé notre mois de novembre avec une semaine de woofing dans la ferme des Ramblais. C'est une ferme cavernicole située près de Vendôme. Cavernicole veut dire littéralement « en caverne », c'est-à-dire qu'il cultive uniquement ce qui peut pousser dans le noir. Ça peut être des légumes forcés comme l'endive ou des champignons.
Le cadre est exceptionnel. On y découvre deux nouveaux univers, les champignons et les carrières. En plus de ça, nous avons l'occasion de nous occuper de chevaux, qui aident à la traction de charges lourdes.
Cette ferme est gérée par Natacha et Nathanaël. Écoutons-les nous en dire plus. Hello, est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter, nous dire qui vous êtes et ce que vous faisiez avant d'arriver ici ?
Eh ben, je commence, Natacha de Ramble, j'ai 37 ans, je suis donc d'originaire de région parisienne et je suis installée, avec mon mari et nos trois enfants dans le Loir-et-Cher, le territoire vendômois où on a repris une ancienne champignonnière.
Et donc Nathanaël avec Natacha depuis une quinzaine d'années et on est arrivé ici en 2020. Juste avant le confinement. Et avant, on était donc en région parisienne et moi, je travaillais à la RATP. Et je travaille toujours à la RATP.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient vos objectifs ou votre rêve en arrivant ici ?
Eh bien, nos objectifs, c'était de changer de vie pour venir ici avec nos enfants. On était un petit peu à l'étroit dans notre appartement. On voulait prendre de l'air, on voulait partir des voitures. Il y avait une petite saturation du monde urbain, le métro boulot dodo, de voir énormément de gens, beaucoup de détresse aussi dans la rue. À titre personnel, ce qui m'a beaucoup marqué, moi, c'était de voir de plus en plus à mes yeux, sans doute qu'il y en a toujours eu, mais des sans-abri sous les ponts où tu te sentais un petit peu en décalage dans un grand univers sans trop avoir de place. Et donc, on voulait retrouver peut-être une place plus adéquate dans un univers plus agréable. Et après, une fois qu'on est arrivé, de là est né un projet agricole, mais c'était dans un second temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé ici avec déjà le projet agricole en tête. D'abord, c'était de quitter Paris. On s'est installé ici, on a trouvé notre bonheur ici, et de là est né un envie de développer un projet.
Natacha, est-ce que tu veux bien nous dire pourquoi vous êtes installé ici, précisément ?
Alors, ça a été un peu par hasard parce qu'on n'est pas du tout de cette région-là initialement. En fait, on est passionné de souterrain depuis 15 ans déjà en région parisienne. Nathanaël, lui, a transformé sa passion des souterrains dans son boulot, comme il disait tout à l'heure, en travaillant à la RATP. Et donc, c'est un ami qui vivait déjà dans ce village-là qui un jour nous a dit il y a une grosse champignonnière avec une ancienne carrière de tuffeau qui est mis à la vente. C'est l'univers souterrain qui nous a amené ici et qui a finalisé notre choix de quitter Paris.
Est-ce que vous voulez bien détailler votre projet agricole ? Parce que vous avez dit que le projet agricole était venu dans un second temps.
Et ben oui, en effet. Donc, comme on disait, on est arrivé ici pour les souterrains, pour se faire une nouvelle vie, sans projet agricole. Et puis, une fois, donc, on est arrivé ici, on a passé un an surtout dans les travaux pour aménager notre lieu de vie. Et on s'est dit, bon, bah, maintenant, de tout cet espace, puisque on est quand même sur 50 km de carrière, avec également des bois, des parties de pâture et choses comme ça. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et donc, il y a eu plein d'hypothèses qui sont venues, mais celle qu'on a retenue, parce que c'est celle pour nous qui avait plus de sens, c'était de partir dans un projet alimentaire et donc un projet agricole. Sur les souterrains, donc on a décidé de créer une exploitation cavernicole, donc de produits qui produisent dans le noir et dans les souterrains, dans la carrière.
Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quels sont les légumes cultivés et ce que ça veut dire, par exemple, légumes forcés, qui est un terme que j'ai découvert un peu ici.
Dans le noir, il y a très peu de produits qui peuvent être cultivés. Donc, il y a en gros deux familles qui sont identifiés et qu'on fait, c'est les champignons. Et puis l'autre famille, les légumes forcés. Alors légumes forcés, en effet, ça fait un terme un peu barbare. Le forçage, en fait, c'est simplement de donner aux légumes une nouvelle indication pour forcer une nouvelle pousse qu'ils n'auraient pas fait en extérieur dans un environnement naturel. Donc c'est les endives qu'on connaît, qui est le principal légume forcé, et qui donc est produit en extérieur dans les champs à partir du mois d'avril-mai, et qui va créer une racine en extérieur qu'on vient récolter donc en novembre, la racine, pour venir la mettre dans les carrières, dans le noir total, et à une température beaucoup plus haute que si elle était en extérieur. Et donc, d'une certaine façon, on lui simule que le printemps revient en plein hiver pour qu'elle puisse refaire une pousse, et dans le noir total, va transformer le légumes qu'on connaît en extérieur, en restant complètement fermé et à la recherche de la lumière, et en absence de photosynthèse, restera donc blanche et jaune, ce qui lui permet en fait d'avoir un goût bien particulier, et l'amertume qu'elle a en extérieur et disparaît complètement pour être plus douce.
Et côté champignons, est-ce que vous voulez bien nous détailler par exemple pour les champignons de Paris, comment ça se passe ?
Alors les champignons de Paris, si on reprend un peu leur histoire, ils sont justement nés dans les carrières souterraines qui étaient sous Paris, c'est pour ça qu'on appelle les champignons de Paris. Donc c'est de la famille des agarics, c'est du rosé des prés qui est en extérieur. En fait, tout simplement, ils ont leurs conditions de culture qui sont très adaptées dans les caves, entre 12 et 14 degrés, beaucoup d'humidité. Et puis eux, ils ont la particularité de ne pas avoir besoin de lumière. Il y a pas mal de champignons qui ont besoin de lumière. Ils ne font pas de photosynthèse, les champignons. Ils ne sont pas dans le règne végétal. Mais il y en a pas mal qui ont besoin de la lumière comme signal de croissance. Et les champignons de Paris, eux, ils en ont pas besoin. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment adaptés aux caves. Et puis après, ils ont un processus de culture qui est issu des crottins de cheval et de paille fermentés. Donc c'est ce qu'on appelle des décompositeurs secondaires. On travaille d'abord la matière, on la décompose dans un état de fermentation intermédiaire qui est propice à la culture du champignon de Paris. Et puis après, il y a toute une série de phases. Alors c'est très très long, il y a plein de termes. Alors les meules, après on fait le lardage, après on fait le gobetage, après il y a les différentes volées, tout ça, plein d'anciens termes qui étaient utilisés dans les années 1800. Quoi. C'est une vieille culture et qui a complètement disparu des carrières. Quoi. Aujourd'hui, elle est industrialisée. Et j'en profite pour faire un petit instant pub, parce que souvent on entend des interviews de champignonistes de Paris, qui sont dans les carrières et qui disent qu'ils font ça à l'ancienne, mais alors il faudra pas les faire écouter l'interview à tout le monde, parce qu'on a des voisins qui font encore ça, mais et donc ces gens-là, en fait, ils font quand même c'est pas complètement à l'ancienne, parce que ils prennent des substrats qui sont déjà ensemencés, et donc ils font juste la partie de fructification en cave, mais il n'y a pas tout le processus, et le processus entier, il a complètement disparu, même quand on va dans le musée des champignons à Saumur, même quand on va dans les endroits, pour expliquer un petit peu, il n'y a plus personne qui prépare son substrat de cheval, donc c'est amusant de voir que c'est une pratique qui a complètement disparu. Alors c'est pas une petite industrie, hein. En 1900, c'est énormément de production à Paris, en Touraine et puis même à Bordeaux. Donc voilà.
Et vous, le substrat, vous le faites vous-même alors?
Ah voilà, c'était pour se lancer un peu des fleurs. Non, c'est pas que pour se lancer des fleurs, c'est parce que c'est intéressant de comprendre aussi comment c'est fait. Et puis après, on peut y trouver plein d'autres intérêts. C'est que le fait de le faire nous-mêmes, il y a moins de coûts de fournisseurs, quoi. C'est-à-dire qu'on va chercher directement aux écuries, c'est gratuit. Donc ça peut être aussi un modèle économique qui a du sens au-delà d'être intéressant. On va voir ce que ça donne après, effectivement, dans la durée. Il y a des inconvénients qui sont des pertes de rendement, plus de manutention, plus de travail d'une manière générale. Mais le sens de faire ça, souvent, ça compense un petit peu le travail. Quand on trouve du sens à ce qu'on fait, on peut faire plus de choses. Peut-être que ça nous donne plus de motivation.
Et est-ce que tu peux bien expliquer comment vous faites ce processus, justement, de création du substrat pour les champignons de paille?
Alors, on va chercher le crottin de cheval aux écuries. Ce crottin, il faut qu'il est macéré déjà un petit peu, donc il ne faut pas que ce soit trop frais, il faut que les boxes, donc là où sont gardés les chevaux, ne soient pas nettoyées tous les jours, donc les écuries de luxe ne conviennent pas, il faut qu'il y ait d'abord une première macération. Il y a aussi tout un enjeu sur l'alimentation du cheval, qui dans ces déjections vont avoir des compositions chimiques différentes en fonction de son alimentation. Par exemple, un animal qui sera au pré avec une alimentation verte, elle va pas donner des bonnes déjections pour ce qu'on veut, donc c'est assez précis. Donc on va chercher ce fumier de cheval, on le ramène chez nous, on fait des tas très aérés, très peu tassés, où on arrose. Et donc, l'azote contenu dans les urines et dans le crottin de cheval va dégrader la paille. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la paille. Hein. Le champignon, il ne va pas se nourrir du crottin de cheval. Le crottin de cheval, il est là avec l'eau pour créer une réaction chimique pour dégrader la paille, qui elle-même va être après mangée par les champignons. Donc, les champignons, je fais une petite aparté, mais c'est des saprophytes. Donc, ils mangent c'est des décompositeurs de matière. Il y a différentes familles de champignons. Il y a les symbiotiques, les parasites et les saprophytes. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est lui préparer un repas. Donc, on fait des tas qu'on va retourner toutes les 8 jours environ. On fait 3 retournes pour que tout soit bien fermenté uniformément. Après ça, on le transporte en cave et là, on monte des meules, donc des petits monticules très tassés où on insère le mycélium. Donc, le mycélium, c'est le corps du champignon qui va se développer dans le substrat. Et après, on va lui demander de fructifier. Donc, les champignons qu'on mange, c'est les fruits du mycélium. Le fruit, c'est une manière de se reproduire. Souvent, quand on est stressé, quand on arrive en fin de vie ou quand il y a un danger dans la vie de l'organisme, il a envie de perpétuer son existence et il veut se reproduire. Et en l'occurrence, là, on va lui mettre une terre de gauptage qui va lui couper tout apport d'oxygène. Et là, il va vouloir fructifier à travers cette terre de gauptage. Et après, on va pouvoir le récolter.
Du coup, on a vu qu'il se passait plein de choses dans la carrière, dans les caves, mais on a aussi vu qu'il se passait plein de choses en lien avec l'extérieur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Natacha, comment vous voyez, vous, votre ancrage sur le territoire, vos liens avec l'extérieur ?
Eh bien, c'est vrai que c'est ce que je disais au début, c'est que nous, on ne vient pas du tout d'ici. Et donc, on est arrivé un peu par hasard et on a eu la chance, la surprise de découvrir un réseau de producteurs en place et une très grande ouverture, en fait. Donc, on a été très, très bien accueillis par un réseau de producteurs, différentes choses, des éleveurs, des maraîchers et qui se regroupent justement pour promouvoir l'alimentation locale, des circuits courts. Et donc, on s'est intégré dans ce réseau-là. L'objectif, en effet, c'est de pouvoir produire pour nos voisins, pour les personnes du territoire. Et voilà, donc on s'est mis dans une dimension de circuit court. Donc on fait les marchés, les restaurateurs à proximité. Donc voilà, ça c'est pour la distribution des champignons. On a également créé une association en arrivant qui était le but de promouvoir l'ancienne champignon avec à travers les anciens métiers cavernicoles, les fours à pain, le travail de la pierre, etc. Et donc on organise tous les ans la fête du pain pour justement faire découvrir au grand public avec des démonstrations de pétrissage, de cuisson au feu de bois. Et également, là, le dernier projet en date, c'est de pouvoir accueillir dans les caves pendant notre saison pour des dîners ou déjeuners fermiers souterrains avec les producteurs locaux pour pouvoir faire découvrir la possibilité qu'en effet on peut manger local, bon et à des prix raisonnables.
Et dans un cadre original.
Et dans un cadre original des caves et des souterrains.
Y a aussi une particularité qu'on a remarquée, c'est que vous travaillez avec des chevaux. Est-ce que vous voulez bien nous les présenter et nous dire pourquoi vous les avez adoptés ?
Oui, avec plaisir. On a 3 petits potiocs qui s'appellent Jacques, Jolan et Jéricho. Qu'on a eu, c'était tout petit. On a pu avoir la chance de faire leur éducation. Et on travaille un petit peu avec eux, on vit avec eux, parce qu'ils sont dans les grottes eux aussi. Donc, c'est des camarades troglodytes. On a même leur pâture d'été très proche. On les a toujours en visu. Donc, c'est aussi des animaux de compagnie. Après, c'est aussi des animaux de travail. Donc, on fait un peu de manutention dans les caves avec. C'est beaucoup pour la partie plaisir, parce que la partie productive, elle est discutable, parce qu'on utilise aussi des remorques et des voitures, et c'est nettement plus productif. Mais encore une fois, le plaisir n'est pas le même. C'est quand même vraiment une grande expérience de travailler avec ces chevaux dans les caves. On est en partenariat et ça rend la chose toute particulière. Ouais, les potiocs, ils viennent des Pays-Bas et puis ils ont été... Des Pays-Bas ? Des Pays Basques ? Basques ! Du Pays Basque, bien entendu. Et ils sont dans les montagnes. C'est les derniers, on dit que c'est des chevaux un peu semi-sauvages parce qu'ils vivent en troupeau libre dans les montagnes. Et ils ont été beaucoup utilisés dans le travail des mines parce que justement, ils avaient des petits gabarits. Ils sont très rustiques, très, très costauds. Et ils sont évidemment super, super sympas. En termes de caractère, c'est des chevaux très, très faciles.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez avec eux ?
Aujourd'hui, ils sont principalement utilisés pour faire la manutention dans les caves. Donc, on a aménagé un petit transpalette qui tire. Et donc, ça conditionne de fait un petit peu notre organisation du travail parce que grâce à ça, on essaye de s'orienter sur des choses qui sont palettisables. Ça a quand même un impact sur le reste de notre organisation parce qu'on veut pouvoir le faire avec les chevaux. Et même si ce n'est pas avec les chevaux, dans tous les cas, du coup, on a ces transpalettes-là qu'on utilise. Donc, le format palette, et on essaie de le généraliser. Donc, ils tirent ça dans les caves. Ils font un petit peu de travail dans les champs. Ça, c'est plutôt nouveau. Ça reste encore à développer, mais on a commencé un petit peu à passer la bineuse, à passer le canadien, à travailler un peu le sol. Ça reste les débuts. Et puis à terme, faire du transport aussi, on en fait pas beaucoup. On fait du transport de loisirs, donc des petites balades entre nous, que ce soit dans les caves ou dehors, avec des petites calèches. Mais on aimerait bien, quoi, moi j'aimerais bien aller au marché à cheval, je trouve que ça ferait partie de l'aventure. Alors tout ça, on peut penser que c'est du folklore, ça en est, mais c'est un peu la même question que pour les champignons, c'est du sens, c'est une façon de faire qui donne du travail, qui donne des choses à apprendre. Si, donc là, pourquoi pas tous les samedis amener les endives et les champignons au marché avec les chevaux. Et pareil, là, c'est évidemment contraignant parce que ça veut dire se lever 2 heures avant. On fait les marchés l'hiver, donc ça veut dire y aller sous la neige, sous la grêle. C'est pas forcément gagner d'avance. C'est un petit défi, mais qu'on a bien envie de faire.
On a découvert plein de choses chez vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez découvert ces thématiques et comment vous vous êtes formé?
Un peu sur le tas, dans le sens où, en effet, nous, c'est une reconversion. On vient pas du tout du milieu agricole. On n'a pas de formation agricole initiale, en tout cas. Donc voilà, donc moi, j'ai passé un BPREA il y a 2 ans pour obtenir la capacité agricole avec déjà l'ambition de faire des produits cavernicoles. Donc là, la spécialité produits cavernicoles dans le BPREA n'existe pas. Enfin, je l'ai pas trouvé, en tout cas. Mais au moins, ça a permis quand même d'avoir une culture générale sur le milieu agricole, sur la gestion d'une exploitation. Ça nous a apporté quand même pas mal de choses. Et puis après, en fait, on a appris avec des vidéos sur Internet, en lisant des livres et en essayant de contacter différents producteurs à l'échelle nationale et puis également à l'international où Nathanaël a pu partir au Japon faire une semaine dans une exploitation de shiitake. Donc ça a été une grande chance de pouvoir faire ça. Mais voilà, c'est surtout dans l'expérimentation, en fait, qu'on apprend. Donc là, ça fait 3 ans qu'on expérimente plein de choses avec la difficulté qu'on est sur des processus très longs pour les champignons, comme pour les shiitake, où c'est 18 mois qu'il faut attendre pour avoir un résultat. Donc, en effet, il faut de la patience, être persévérant.
Un peu suspense.
Et du suspense, mais c'est ça qui est chouette aussi. On a eu la chance, qui n'est pas le cas pour toutes les personnes qui s'installent. Comme on disait au début, on est venu ici sans projet agricole, donc on a pris le temps d'essayer des choses, d'expérimenter, sans avoir la pression de l'installation, des prêts qui commencent. Donc ça nous a permis de pouvoir aussi bien mûrir notre projet. On reconnaît que c'est une grande chance de pouvoir faire ça. Et en fait, ça permet de pouvoir se lancer en se disant qu'on a déjà commencé à tester des produits au niveau de la clientèle, qu'on a déjà un réseau de personnes à qui nos produits plaisent, qui nous font confiance. Donc c'est vrai que ça permet de partir un peu plus serein dans l'aventure agricole.
Du coup, on a entendu un petit peu ce que Natacha pouvait aussi conseiller aux futures personnes qui voudraient s'installer. Est-ce que Nathanaël, tu as un conseil, toi, à donner ?
Eh bien, je vais peut-être répéter ce que... On avait des amis qui étaient là hier soir et je me souviens de ce qu'ils nous avaient dit quand on était arrivés. C'était de ne pas abandonner. Alors, ça peut faire un peu triste, dit comme ça, parce que ça sous-entend qu'il y a des difficultés, mais il y en a. Et c'est vrai que c'est de ne pas céder aux difficultés, parce qu'elles sont nombreuses. On est quand même loin d'avoir réussi notre projet. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et ce n'est pas gagné d'avance. Donc, persévérer dans l'adversité. Voilà.
On a des petites questions classiques à la fin. En général, on demande quel est votre légume préféré, mais là, on va vous demander quel est votre champignon préféré.
Moi, mon champignon préféré, c'est le pleurote du panicot. Il fait partie donc des pleurotes, son nom l'indique, mais qui a une particularité en fait d'avoir un pied très gros et très long. Et en fait, on mange ce champignon principalement pour son pied, qui va être un peu un substitut à la saucisse pour les végétariens et qui est très très bon, qu'on fait revenir à la poêle, assaisonné et voilà.
Moi, je vais dire 2 champignons. Il y a effectivement le shiitake qui, je trouve, qui est très sous-estimé parce que justement aujourd'hui il est fait sur paille, il développe pas du tout le caractère qu'il mérite. Et quand on a la chance de manger des shiitake cultivés sur chêne, on est vraiment surpris de voir la différence et de voir son goût qui rappelle la forêt gustativement. Vraiment, moi je le trouve très très impressionnant. Et le deuxième, il est plus affectif, mais quand même, c'est le champignon de Paris, toujours. Parce que moi, j'ai encore la chance d'aller dans les carrières à Paris et je vois toutes les anciennes meules que faisaient les champignonistes en 1800. Et là aussi, je trouve que c'est une histoire un peu méconnue et c'est une valeur affective très, très forte pour moi, le champignon de Paris.
La dernière question qu'on voudrait vous poser, c'est est-ce que vous avez une recommandation à partager, une recommandation culturelle, musicale ou autre? On a parlé de pas mal de films pour vous mettre sur une piste tout à l'heure, par exemple.
Une recommandation ou c'est juste pour entendre quelqu'un d'autre parler de la carrière. Il y a un super podcast, Les Pieds sur Terre, dans le noir, et qui est un témoignage d'une personne qui a travaillé pendant 18 ans dans la carrière, donc dans laquelle nous on travaille aujourd'hui, mais au moment où c'était encore une industrie, où ils étaient 300 à travailler, et donc ils n'avaient rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est un très beau témoignage et qui permet vraiment de se plonger dans comment on travaillait à l'époque, en tout cas dans la carrière.
Il y a une série à Arte qui est sur un type de roche à chaque fois différent. Et donc il y a un reportage sur le calcaire, un reportage sur le schiste, un reportage sur le sel. Je recommande de le regarder si je suis sur le calcaire. Il donne une dimension très, très amoureuse de cette pierre, quoi, parce qu'elle est formée à partir d'organismes vivants. Et donc il y a un rapport à la pierre. Des fois, souvent, le minéral, ça nous donne un aspect froid, qui est mort, qui est inerte. Alors que c'est issu de millions d'années d'accumulation de crustacés dans les mers. Et l'humain a un rapport très fort à ce calcaire. L'essentiel de nos maisons, ils sont construits en calcaire.
Merci pour votre temps, pour cette interview et puis pour tous ces moments déjà partagés. On a hâte de revenir en décembre.
Merci à vous.
Et encore merci à eux pour leur accueil. On a prévu d'y retourner début décembre pour voir d'autres activités de leur ferme.
En tout cas, cette semaine, on a déjà vu et fait pas mal de choses.
Récupération de fumier dans une écurie, qui servira, comme l'a expliqué Nathanaël, pour les champignons de Paris. Un déchet pour l'écurie devient une ressource, et ça, c'est cool!
Mais aussi mise en place des blocs de culture de pleurotes dans la grotte.
Ensuite, on a aidé Natacha et Nathanaël pour immerger des bûches dans l'eau. Elles avaient été ensemencées il y a 2 ans pour produire des shiitakes. Nous avons plongé dans l'eau de la nappe phréatique, accessible depuis la carrière. L'objectif était de créer un choc hydrique pendant 48 heures et de les disposer dans la cave pour espérer voir des champignons sortir.
Nous avons aussi passé quelques matins à nous occuper des chevaux. Caresses, gratouilles et brossage de crinière. C'est un peu impressionnant, alors même que ce sont des petits chevaux.
C'était aussi l'occasion de visiter un peu la région et de profiter d'événements culturels, en allant à un concert au bar du village, puis un autre concert dans une chapelle à Vendôme.
On a passé cette semaine avec Jean-Loup. Également woofer de passage cette même semaine. Hello, est-ce que tu peux te présenter pour commencer ?
Salut Flavie, salut Valérian, moi c'est Jean-Loup, j'ai 23 ans, je suis breton et je fais mes études sur l'Orient.
Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais là actuellement ?
Alors là, ça fait une semaine que je fais du woofing avec vous. C'est ma semaine de vacances, alors j'ai décidé de venir découvrir les champignonnaires des Roches-l'Évêque.
Et est-ce que tu as déjà fait du woofing avant et pourquoi les champignons ?
Alors du woofing, j'ai découvert ça, j'avais 19 ans, donc j'ai eu quelques expériences depuis, pendant les vacances surtout. Cette fois-ci, c'est ma troisième expérience et c'est aussi une première découverte pour moi, comme pour vous, de la culture des champignons et aussi de la découverte de cette région du Loir-et-Cher.
Et qu'est-ce qui te pousse à faire du woofing pendant tes vacances alors ?
Beaucoup de choses. La première chose, c'est apprendre, découvrir d'une autre manière que ce que l'on peut avoir à l'école, mais c'est aussi découvrir en essayant d'interagir avec les gens, sortir de sa zone de confort, rencontrer des personnes qu'on rencontrerait pas à la base, être dans la nature aussi.
Et du coup, est-ce que tu peux raconter un petit peu ce que t'as fait avec nous cette semaine ?
On est parti à la découverte des carrières des Roches-l'Évêque. On a manipulé du mycélium. On a essayé de faire des préparations pour lancer la culture des champignons. Différentes préparations avec différents supports. On a préparé la paille pour les champignons de Paris. Préparé et trempé des bûches de chêne pour inséminer des shiitakes qui vont pousser dans les mois à venir. On a découvert aussi la traction animale. Ici, ils utilisent des chevaux qu'on appelle les potiocs pour tracter leurs transpalettes et transporter des charges lourdes. Parce qu'on est sur une grotte qui contient plusieurs routes qui s'entremêlent entre elles et on a jusqu'à 55 km de piste. C'est énorme. On s'y est perdu d'ailleurs. On a pu faire notre exploration à l'intérieur de la grotte. On a passé un peu de temps avec les chauves-souris qui commencent à s'installer pour leur hibernation, qu'on a essayé de ne pas trop les perturber non plus.
Bah, d'ailleurs, est-ce que tu veux nous raconter un peu ce qu'on a fait hier pour notre après-midi Halloween ?
Hier, on a essayé d'avoir un peu de frisson. On s'est lancé dans la grotte, on avait des lampes frontales pour s'orienter. On n'avait pas de carte, une boussole. Et on a avancé dans le noir comme on a pu. Chaque route était similaire, on a trouvé des objets qui pouvaient nous servir de repères. C'est comme ça qu'on a créé notre carte petit à petit. On était équipé d'une feuille, d'un stylo. Valérian était le cartographe, c'est lui qui a tracé les pistes. Et Flavie et moi, on était plus aux avant-postes et on essayait de trouver des repères visuels. Donc dans la grotte, il y a forcément des objets qui appartiennent à ceux qui y habitent. On s'est dit, ok, il y a un vélo bleu à cet endroit, on va essayer de trouver le virage. On a aussi dans la grotte, donc si on peut appeler ça pas des vestiges, mais des anciennes installations de la champignonnière qui existe depuis les années 50. On a toujours les DVC qui sont présents, les sanitaires, les zones aussi d'installation ou de préparation, comme lorsque les ouvriers venaient dans la grotte, ils avaient leur lampe torche. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre ? On a aussi des zones qui ont été consolidées, donc des murs en parpaing pour solidifier la grotte, pour prévenir de certains éboulements. Même avec ça, on a presque réussi à se perdre. Hein. C'était une sacrée aventure.
On peut raconter la cerise sur le gâteau qui était de faire un petit tour en barque après sur la nappe souterraine. Moment mémorable.
Ouais, c'était un super moment de découverte dans la carrière. On arrive dans la zone inondée, donc on atteint le niveau de l'eau, le niveau de la nappe. On arrive à cet endroit et on tombe sur une barque. Et là, on se regarde tous les trois dans les yeux et on se dit, bon, c'est pas tous les jours qu'on
a
l'occasion
mourir.
De faire ça. Et on se lance sur la barque, hein, on monte dessus. Déjà, c'est instable. On commence à ramer, on explore la grotte, on avance tranquillement, on voit le fond de l'eau. C'est une eau très pure et très claire.
Trop bien. Merci pour ce petit récit d'aventure.
En te rencontrant, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui te caractérise, selon moi, c'est que tu as l'habitude de circuler en stop.
Oui.
Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ces expériences ?
Alors le stop, c'est une bonne manière pour se déplacer, pour plein de choses différentes, pour ceux qui n'ont pas d'argent déjà. Pour être honnête, je suis étudiant, donc forcément un trajet, ça peut coûter cher. Et c'est une bonne manière de pouvoir voyager tout en faisant des rencontres et éviter le train où on utilise ses écouteurs et on n'échange pas forcément avec les gens qui sont à côté de nous. Et j'ai pu faire un gros voyage en stop aussi que j'ai pu vous raconter quand je suis parti au Kosovo. Je suis rentré et j'ai fait le trajet retour Kosovo jusqu'en Bretagne. Il y a 2500 km de trajet et là j'ai pu en visiter des voitures, des véhicules, rencontrer des gens, essayer de se faire comprendre parfois quand on n'a pas le même langage. C'est aussi un sacré défi. Bon, on se retrouve toujours aussi dans des situations improbables, rester coincé toute une nuit dans une station essence, devoir traverser une autoroute alors qu'on est bloqué. C'est toujours des très beaux souvenirs de voyager en stop que je recommande à tout le monde.
Trop cool, merci.
On a une petite question finale qui nous est chère. Est-ce que tu as une recommandation à faire, à partager ?
Je sais pas si vous l'aviez déjà donné avant. C'est le podcast Bifurcation.
Trop bonne idée.
Je tombais dessus par hasard, franchement.
T'en as une autre ?
Ouais. Oui, bah, on a beaucoup parlé de ça cette semaine. Les pieds sur terre de France Culture qui permet de rencontrer ou de s'immerger, mais parfois de s'immiscer dans la vie de certaines personnes dans plein de situations différentes.
Merci.
Eh bien de rien, merci à vous.
À bientôt.
On était content de partager ces expériences avec lui et à l'occasion, on lui rendra visite à Lorient. Voilà, on espère que vous avez apprécié autant que nous cette escapade insolite. Et pour clôturer cet épisode, nos habituelles recommandations culturelles.
Je vous propose de découvrir un lieu où nous sommes allés faire du woofing l'été 2023, les Salines du Breuil, le Marais Salant d'Analia et Julien, dans une émission de Nos Terres Inconnues, Rendez-vous dans le Marais Breton Vendéen. C'est Inès Rey qui a été l'invitée de ce séjour, si vous aviez besoin d'une raison de plus pour regarder. En tout cas, ça nous a fait plaisir de revoir ces paysages et de retrouver Analia et Julien sur le petit écran.
Dans la carrière, il y avait une zone de claustration volontaire. Si vous voulez en apprendre plus sur ces expériences de vie dans les milieux extrêmes, je vous recommande d'écouter l'épisode « Coupé du monde, des pieds sur terre ». Il y a aussi un épisode des baladeurs à ce propos.
À bientôt.
Salut.
Cet épisode est monté avec l'aide de Quentin de la MJC Bobby Lapointe.
Dans le prochain épisode, on vous raconte notre mois de décembre, et notamment la deuxième semaine de woofing dans la ferme cavernicole. avec un focus sur leurs habitantes, les chauves-souris.